Et nous sommes le lundi 4 novembre, soyez les bienvenus sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, Emmanuel Macron de retour en Chine pour 3 jours, tenant ainsi sa promesse d'une visite par an pour développer les relations commerciales sans éviter les sujets qui fâchent. Nous serons à Shanghai en direct dès le début du journal après les autres titres, Agnès.
Une femme portée disparue à Nice, des foyers privés d'électricité, des TGV bloqués, bilan de la tempête Amélie qui a balayé le pays. En ce jour de rentrée, les cantines se mettent au vert avec un menu végétarien obligatoire par semaine. La lutte contre les décharges sauvages, gros plan sur la mer de déchets de carrière sous Poissy. Et puis elle a aidé les femmes à quitter leur fourneau en créant les cuisines ouvertes. Charlotte Perriand est à redécouvrir à la Fondation Vuitton.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50, Léa.
Il était jusque-là le mathématicien brillant et sympathique de la galaxie macroniste. Il est devenu le dissident rebelle en lançant sa campagne à Paris contre Benjamin Griveaux, investi par La République En Marche. Alors que veut-il vraiment? Qu'a-t-il dans le ventre? Cédric Villani passe l'oral à 7h50.
A tout à l'heure, Léa. 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'ancien eurodéputé écologiste Daniel Cohn-Bendit. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. Une visite sans tabou, c'est ce qu'annonce l'Élysée à quelques heures de l'arrivée à Shanghai d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État devrait ainsi aborder la question des droits de l'homme, de la répression contre les musulmans et la situation à Hong Kong, alors que les manifestations ont de nouveau dégénéré ce week-end avec 2 manifestants grièvement blessés. Mais ce voyage est avant tout placé sous le signe du commerce. Le chef de l'État est d'ailleurs accompagné d'une délégation d'entreprises françaises très intéressées par la promesse d'ouverture du marché chinois. Une visite que suivra la correspondante de France Inter à Pékin, Dominique André.
Emmanuel Macron sera choyé comme un ami qui vient de loin, souligne un haut diplomate chinois. Ce soir, le chef de l'État participera au dîner de gala de la Foire internationale des importations, un événement créé par Xi Jinping pour ouvrir le marché chinois. Demain, Emmanuel Macron et son épouse dîneront avec le couple Xi à 4 dans un restaurant typiquement chinois au milieu des jardins du mandarin Yu. Bien traité, Emmanuel Macron le sera, mais les Chinois ne savent pas sur quel pied danser avec le chef de l'État français. On voudrait dégager plus de consensus dans notre partenariat, précise Zhu Jing, chargé des affaires européennes au ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine a compris que le président français allait désormais jouer la carte européenne pour peser. Il arrive à Shanghai avec une ministre allemande dans sa délégation et avec le commissaire européen Phil Hogan, qui sera chargé du commerce à la fin de l'année. Une nouvelle stratégie est en train de se dessiner, délicate, mais à un moment où la Chine cherche aussi à se rapprocher des Européens en pleine guerre géostratégique avec les États-Unis. Shanghai, Dominique André, France Inter.
Et parmi les chefs d'entreprise qui participent à ce voyage, Yves Chassani, il est éleveur dans l'Aveyron et il espère bien profiter de la fin de l'embargo chinois sur les exportations de bœuf français pour défendre la race d'Aubrac.
On va aller visiter l'équivalent du marché de Rungis sur Shanghai. Alors là-bas, on verra déjà quelques opérateurs français qui ont commencé à exporter leurs produits sur la Chine et on verra aussi les habitudes alimentaires sur ce marché chinois. Ce qui va être important à l'occasion de ce premier déplacement, c'est la prise de contact, avoir, je dirais, des ponts qui sont ouverts, des relations avec ce pays-là, et imaginer au fur et à mesure des premières expéditions et une montée en puissance de la mise en confiance avec les opérateurs chinois. Il y a des bouches à nourrir et je crois qu'il y a aussi du pouvoir d'achat qui correspond à l'excellence et à la valorisation des savoir-faire des éleveurs français.
Un témoignage recueilli par Fanny Oyer. Parmi les temps forts de ces 3 jours en Chine également, l'inauguration demain du nouveau centre Pompidou à Shanghai. 3 jours, c'est un peu court, estime l'entourage du président chinois, et c'est à lire sur franceinter.fr.
Il est 7h04, Agnès, retour sur les conséquences de la tempête Amélie, la première de la saison.
Avec des opérations qui se poursuivent sur les hauteurs de Nice pour tenter de retrouver une septuagénaire qui aurait été ensevelie par une coulée de boue. Grosse galère également pour les 2000 passagers de 4 TGV entre Hendaye et Paris qui sont restés bloqués une bonne partie de la journée d'hier. Certains TGV sont arrêtés cette nuit à Paris. Et puis en Nouvelle-Aquitaine, 23 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Les vents qui ont soufflé jusqu'en 163 km/h au Cap Ferret ont provoqué de gros dégâts, comme a pu le constater Mélanie Juvé.
Devant sa maison, balayée par les vents, Nicolas constate les dégâts. Une clôture arrachée, il a dû la relever et des pins sont tombés à côté de chez lui.
On a des tuiles qui ont commencé à se lever du toit, malgré le fait qu'elles étaient vissées. Et puis là, dans la rue, toute la barrière est tombée. D'un seul tenant, comme ça, comme un château de sable. Là, ça fait un camion qui passe.
Le bruit ?
Oui, oui. Et vous voyez, le sémaphore, il est juste là. Donc le 163 km/h du sémaphore, moi je l'ai eu. C'est impressionnant quand même quand ça tombe.
Sur les routes du Cap Ferré, il y a des arbres couchés sur des voitures, mais aussi sur des poteaux et des câbles électriques. Et conséquence, des habitants ont été privés d'électricité dans certains quartiers comme Florent à Lège.
Pas d'internet, y a rien, pas de numéro pour appeler EDF, j'ai rien, donc je vais repartir chez ma copine.
Juste à côté, Marie, 50 ans, voit son entreprise d'entretien de bateaux touchée. Plus de lumière, donc plus d'ordinateur en marche. Mais elle s'inquiète surtout pour les voisins.
Parce qu'ils ont des frigos, des congélateurs, on a vu les voisins, voilà, quoi, ils sont embêtés, quoi. Sans lumière, sans chauffage électrique, c'est un peu gênant. Bon là, il fait pas très très froid, on va dire, mais bon, ça risque de venir.
Et les agents d'Enedis ont fait le tour de la commune pour tenter de rétablir au plus vite le courant. En attendant, les habitants s'organisent. Certains n'iront pas travailler aujourd'hui pour réparer les dégâts dans leur jardin.
Et ce matin, seul le département de Charente-Maritime reste en vigilance orange, pluie, inondation. Pas de rentrée ce matin pour 279 écoliers de Béziers. L'école primaire Les Tamaris a été incendiée jeudi dernier. Un accueil est tout de même prévu dans la maison de quartier. Du côté de l'enquête, un adolescent de 15 ans, soupçonné d'être l'un des auteurs de cet incendie criminel, a été mis en examen hier et placé en détention provisoire. À Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, c'est l'école de cirque qui est partie en fumée dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une nouvelle soirée de violence. Colère et tristesse de la mère de Chanteloup, Catherine Arnoux, au micro de Léa Gouedge.
Oh bah je suis écœurée. C'est pas seulement des mois de travail, parce que c'est pas ça qui est important, mais c'est quand même la liberté qui part en fumée. Hein. Et puis c'est l'image du territoire, Chanteloup ne mérite pas ça. C'est insupportable, c'est désespérant, c'est des gamins qui n'auront plus la possibilité de vivre des moments, d'être accompagnés, de découvrir. C'est la culture qui est attaquée. On n'attaque pas par hasard un lieu de culture. On n'attaque pas par hasard un lieu qui est tenu par une compagnie des contraires qui est présente sur le territoire depuis 20 ans, qui ont accompagné, ils en sont à la deuxième génération de gamins qui ont découvert grâce à eux à la fois la culture, l'ouverture aux autres et qui sont devenus des vrais citoyens.
Et deux personnes ont été interpellées hier soir, dont un adolescent de 17 ans est placé en garde à vue. La circulation des trains sur l'axe Lyon-Ambérieu-Bourg-en-Bresse devrait reprendre normalement ce matin au lendemain d'un accident à un passage à niveau à Tossia. Un TER a percuté en fin d'après-midi une voiture qui se trouvait sur la voie. Le conducteur et sa passagère sont morts sur le coup. La rentrée donc ce matin après les vacances de la Toussaint et une nouveauté à la cantine avec un menu végétarien par semaine obligatoire, conséquence de la loi pour une alimentation saine et durable votée il y a un an. Certaines écoles proposent déjà un menu sans viande ni poisson, mais d'autres ont encore du mal. Explication signée Sonia Princé.
Une blanquette de tofu, un couscous végétarien, voilà ce qui attend les élèves à partir de cette semaine. Certaines communes proposaient déjà un menu sans viande ni poisson de temps en temps. Meudon, par exemple, près de Paris, qui passera désormais à un rythme hebdomadaire, mais la difficulté est d'équilibrer tous les repas, selon Virginie Lanlot, adjointe au maire chargée de l'éducation.
C'est surtout dans l'établissement des menus qui sont établis pour une durée de 3 mois, qu'il a fallu faire preuve d'inventivité pour faire en sorte qu'il y ait un équilibre proposé aux enfants et en instaurant ce repas végétarien qui peut se positionner aussi bien le lundi que le jeudi, peu importe, l'objectif c'est qu'on le retrouve une fois par semaine.
Mais toutes les communes ne sont pas prêtes, comme le dit Élodie Vieille-Blanchard, présidente de l'Association végétarienne de France.
Ce qui est difficile, c'est que l'État n'a pas du tout fourni de dispositif d'accompagnement. On sait que c'est pas forcément évident pour les gens qui n'ont pas l'habitude de composer des menus végétariens qui soient équilibrés, qui soient gourmands, de trouver des bons fournisseurs. Peut-être que certains cuisiniers n'ont pas été bien formés à ce que c'était qu'une assiette végétarienne. Ça peut poser des questions nutritionnelles. Donc c'est vrai que toute cette information n'a pas vraiment été fournie aux communes et aux gestionnaires d'établissements.
Et un argument qui peut encourager les maires, certaines villes qui proposent déjà des menus végétariens régulièrement ont pu faire baisser le prix de la cantine.
Reportage de Sonia Princé. C'est un fléau auquel le gouvernement a décidé de s'attaquer, les décharges sauvages. On en compte des centaines en France. Un texte est actuellement discuté au Parlement, un texte défendu par la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, qui est attendu ce matin à Carrières-sous-Poissy, dans les Yvelines. 7000 tonnes de déchets gisent sur une quarantaine d'hectares. Delphine Evenou s'est rendue sur place.
De gros plots en béton empêchent désormais tout véhicule de décharger, mais les déchets sont toujours là, des tas et des tas d'un peu tout.
Des tuiles, des briques, des toilettes là-bas.
7 ans qu'ils s'amoncellent.
On a de tout et là on se rend bien compte que ça c'est du BTP quoi.
Alban Bernard, président de l'association Stop Décharges Sauvages.
Vous avez des produits dangereux, polluants, les peintures, éventuellement aussi donc les tôles ondulées amiantées. Avec la pluie, ça passe dans la terre et après ça vient dans la nappe phréatique. Et nous, on boit l'eau derrière.
Pour alerter sur le phénomène, le quadragénaire a lancé en mars dernier une application sur téléphone.
Voilà, donc c'est relativement simple. On a soit voir la carte de France des décharges sauvages, soit signaler une décharge sauvage. Donc quand on clique sur voir la carte, aujourd'hui en région parisienne, on est à 120 signalements et sur l'ensemble du territoire, on est à plus de 180. C'est toutes les semaines que je reçois des nouveaux signalements. La dernière, voilà, la Selle-les-Bordes. Il n'y a pas si longtemps, on était du côté de Bordeaux.
Selon Alban Bernard, il faut des amendes dissuasives à plusieurs milliers d'euros pour lutter contre ces décharges. Un changement de mentalité aussi.
Les déchets, c'est un vrai souci. Et si on ne s'en préoccupe pas, dans quelques années, on va être submergé.
En attendant, après des mois de combat, les déchets de Carrière-sous-Poissy devraient finalement être enlevés l'an prochain. Le ministère de l'Écologie estime que les décharges sauvages coûtent environ 400 millions d'euros par an aux collectivités.
Il est 7h11, c'est la semaine des auteurs et de leurs éditeurs, pardon, pas auditeurs.
Vont être décernés d'ici vendredi les prix Goncourt, Renaudot, Femina et Médicis. Le tout Paris littéraire bruisse de rumeurs. Fin du suspense à 13h pour le Goncourt avec 4 derniers lauréats en lice. Jean-Luc Coatalem pour La part du fils chez Stock. Jean-Paul Dubois pour Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon chez L'Olivier. Amélie Nothomb pour Soif chez Albin Michel. Et Olivier Rollin pour Extérieur monde chez Gallimard. Elle a révolutionné notre manière d'habiter. Charlotte Perrian est à l'honneur à la Fondation Louis Vuitton à Paris, 20 ans après sa mort. Une rétrospective qui montre à quel point cette créatrice de design n'a rien à envier à Le Corbusier, Pierre Jeanneret ou Jean Prouvé. Isabelle Pasquier.
Frondeuse, avec sa coiffure garçonne, humaniste, Charlotte Perrian réalise son utopie. Des meubles et des espaces pour un nouvel art de vivre. Avec un objectif, insuffler art et poésie dans le quotidien et pour tous. Mais quand elle se présente à Le Corbusier, l'accueil est carrément macho.
Le Corbusier m'a reçu, j'avais mon carton modestement sous le bras, avec différents projets. Puis il m'a dit, vous savez, on ne brode pas des coussins ici.
Et c'est tant mieux, car Charlotte préfère le métal à la broderie. Dans l'expo, au milieu des toiles de son ami Fernand Léger, on s'immerge dans son univers, sa fascination pour le vide, son iconique chaise longue basculante, ses étagères modulables et sa révolutionnaire cuisine-bar pour sortir la femme de sa prison.
La transformation de la cuisine devient une question d'évolution de la condition de la femme qu'on essaie de libérer, qui veut se libérer.
Et Charlotte Perrian a dû se battre contre Le Corbusier qui s'est approprié ses créations. Jacques Barsac, son biographe.
Quand Le Corbusier les a fait rééditer dans les années 50 et il a supprimé le nom de Charlotte Perrion et de Pierre Jeanneret. Elle s'est bagarrée. Elle a trouvé que c'était pas du tout élégant. Après la mort de Le Corbusier, ça s'est réglé.
Et belle revanche, car il y a 2 ans, un bureau de Charlotte Perrion s'est vendu 700 000 euros. Mais aujourd'hui, c'est la piraterie Made in China qui lui vole ses œuvres.
Exposition Charlotte Perrion à découvrir jusqu'au 24 février à la Fondation Louis Vuitton.
Merci Agnès Soubiran.